Domény, du Centre d'interprétariat en langue des signes, donc de l'Institut à Larnay à Biard, dans un établissement qui est ici ce soir, l'Espace Madès France, qui se préoccupe aussi beaucoup de ces questions de liaison et de réflexion sur le handicap et sur la transmission. Ce soir, nous avions choisi dans le cadre de ces rendez-vous du patrimoine de parler des métiers de la restauration, mais aussi des métiers de la recherche. Comment connaît-on un édifice? Comment connaît-on la société dans le cadre de laquelle cet édifice s'est construit? L'introduction par Robert Favreau nous a mis dans cette perspective historique. François Janot, hier soir, nous a montré combien, pour l'étude d'un monument, il était important d'avoir une recherche documentaire, une recherche historique, une recherche archéologique tout à fait fondamentale avant de commencer quelque intervention que ce soit. Et ce soir, c'est un autre aspect que nous allons aborder, plus celui d'une société en complète mutation, dans le diocèse, dans le département, dans le quartier de Saint-Radegonde, enfin on va voir ça, un contexte religieux, un contexte historique de mouvement des idées, de réflexion tout à fait fondamentale sur la conservation du patrimoine également. Sophie Bouzier, donc conférencière ce soir, est guide conférencière, et je voulais en dire un mot, puisque vous avez peut-être tout au long de l'année l'occasion de rencontrer régulièrement les guides conférenciers, soit lorsqu'ils accompagnent des groupes, soit lors de visites guidées proposées à tout un chacun. Et je voulais souligner l'importance du rôle des guides conférenciers tout au long de l'année, de manière très très régulière dans cette transmission de la connaissance. Les guides conférenciers, vous en avez à travers toutes les villes, à Poitiers, dans cette ville de la région Poitou-Charentes, le statut est tout à fait spécifique et particulier, puisque les personnes sont employées dans le cadre d'une convention Ville et Pays d'Art et d'Histoire qui a été signée à Poitiers entre le ministère de la Culture et de la Communication et la communauté d'agglomération de Poitiers en 2003. Donc n'hésitez pas, si vous vous baladez à travers la France, à rencontrer ces guides conférenciers dans ces villes labellisées villes ou pays d'art et d'histoire. Je laisse la parole à Sophie, en la remerciant beaucoup, tout particulièrement.
Merci. Alors, vous allez me dire si le son est bon pour vous. C'est bon. Alors, je vous m'excuserai de lire de temps en temps mes notes, mais comme je ne voudrais pas qu'on s'égare trop tard dans la nuit et que le sujet est vaste, ça va me servir de garde-fou. Alors, juste en pré-introduction, juste préciser que lorsque le titre de cette conférence a été arrêté, nous avions choisi donc de parler de Saint-Radegonde depuis la Révolution française. Alors, au risque de choquer une partie de mon public, ce ne sera peut-être pas depuis la Révolution française, mais après la Révolution. La nuance étant peut-être subtile, mais elle veut dire qu'on va essentiellement en fait aborder le XIXe siècle, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans l'église Saint-Radegonde à partir de la Révolution et en conséquence en fait de la Révolution française. Donc c'est une manière en fait d'interroger aussi l'identité de ce monument, qui est, comme nous l'avions indiqué dans le titre, au cours du XIXe siècle, à la fois une église, on ne peut évidemment pas faire l'économie de cette constatation, et qui plus est une église de pèlerinage, et c'est aussi un monument qui, en tant que tel, est identifié au XIXe siècle comme un monument historique. Donc c'est un petit peu sur cette double approche que s'est cerné le projet de cette conférence. Alors je vais, en introduction, rappeler, je pars d'assez loin, mais je voudrais rappeler quelques termes d'étymologie pour se souvenir en fait de ce que signifie le patrimoine, puisqu'on parle du patrimoine et des monuments historiques au XIXe siècle. Donc simplement pour rappeler que patrimoine, ça vient du latin patrimonium, hein, qui signifie en fait un rapport de légitimité familiale qui est entretenu par l'héritage. Et au XIXe siècle, le Littré nous rappelle que le patrimoine, c'est un bien d'héritage qui descend, selon la loi, des pères et mères à leurs enfants. Et cette notion me paraissait tout à fait importante lorsque l'on aborde le concept d'un patrimoine collectif. Cette notion d'héritage et de transmission me paraissait tout à fait importante. À noter aussi qu'en Occident, le ressort en fait principal de ce patrimoine, c'est le culte des monuments, précisément. Ce qui me permet de vous assainir un second terme latin, c'est que le monument, c'est le monumentum, qui vient lui-même de monere, qui signifie rappeler, avertir, rappeler le souvenir. Alors c'est important parce que originellement le mot monument va donc en fait désigner un édifice qui est servi pour pérenniser le souvenir des choses mémorables. Il y a vraiment cette notion en fait de transmission par la mémoire. Et progressivement, on va dire à partir à peu près de la Renaissance, il y a eu une deuxième acception du terme qui était destinée à prendre le dessus, qui était celle de dire un monument, c'est un édifice qui a en fait la charge d'embellir, de magnifier la ville par son imposante dimension par exemple, par sa qualité architecturale, par la dignité de sa fonction. Donc ça c'est un petit peu le deuxième sens du mot monument qui a pris le dessus, mais au point de faire oublier un petit peu la première partie du sens de monument, à tel point d'ailleurs on l'a si bien oublié qu'on a quelquefois été obligé d'accoler le mot commémoratif derrière monument. Mais n'oublions pas qu'à l'origine, un monument, c'est vraiment ce qui rappelle à la mémoire. En France, la notion, le concept de monument historique, qui reste néanmoins, c'est important puisqu'on évoque les questions de société, c'est quelque chose de très occidental, hein, le monument historique n'a pas forcément la même valeur dans toutes les cultures. Et en France, le concept de monument historique s'est construit à la Révolution française. Il est enraciné dans l'époque révolutionnaire. Alors, c'est quelquefois un peu le paradoxe, puisqu'on retient davantage la Révolution pour une époque qui détruit, qui mutile, qui abandonne ses monuments un petit peu à la foule. Mais l'époque révolutionnaire fait aussi naître cette conscience de patrimoine, entre autres parce que après 1789, il y a cette notion d'héritage à partir du moment où la Constituante va décréter bien national les biens royaux, les biens de l'Église, et puis plus tard les biens des émigrés. Donc il y a cette notion d'héritage important dont il va falloir décider ce qu'on en fait au fil du temps. Donc aussi curieux que ça puisse paraître, la naissance vraiment de la conscience d'un patrimoine national est ancrée dans la Révolution française. Pour revenir à notre église Saint-Radegonde, justement ce qui m'intéressait dans cette église, c'était son statut particulier qui permettait de jouer sur les deux acceptions du terme, du mot monument. Il y a à la fois dans cette église une fonction mémorielle, puisqu'elle conserve le souvenir d'un grand personnage, d'une grande sainte, qu'elle conserve le souvenir de la dévotion qui lui a été consacrée, du pèlerinage qui lui a été consacré, et que c'est aussi un monument qui compte dans le paysage monumental de la ville de Poitiers. Et cette double approche est perceptible pendant tout le XIXe siècle, et elle explique aussi une certaine partie de l'intérêt qu'on va lui consacrer, des restaurations qui vont être proposées, des mesures en fait qui vont être appliquées à cette église. Alors, je n'ai pas prévu, parce qu'il y a eu aussi précisément la conférence de M. Favreau en début de semaine, donc, et puis ça ne rentre pas tout à fait dans mon sujet, donc je ne fais pas l'historique vraiment de l'église, mais juste pour mémoire, et je peux peut-être commencer à vous passer quelques documents qui vous distrairont le regard. Voilà, en même temps, on choisit quelques documents anciens, ce qui nous permet en fait de nous replonger un petit peu dans le passé. Juste pour rappeler ce que vous savez certainement déjà, mais une première église Saint-Radegonde a été fondée par Radegonde au VIe siècle. Et c'était une église qui était dédiée à la Vierge et qui était destinée à la sépulture des moniales de Sainte-Croix. À la mort de Radegonde, l'église a pris assez rapidement le vocable de Saint-Radegonde et elle a été desservie par une communauté de clercs qui est devenue au Xe siècle un collège de chanoines dont la fonction était entre autres l'accueil des pèlerins, précisément sur le tombeau de la fondatrice. Donc, Sainte Radegonde a été à la fois une église collégiale, avec un collège de chanoines, et aussi une église paroissiale, avec en particulier une partie de l'église réservée à la paroisse. Pour les époques les plus proches avant la Révolution française, on sait que l'autel de la paroisse est situé dans la petite absidiole d'axe du déambulatoire, donc à l'arrière du chœur. C'est une paroisse d'ailleurs relativement importante avant la Révolution, puisque fin XVIIIe siècle, on compte à peu près 1500 communiants, donc ça n'est pas une petite paroisse dans la ville. Or, la Révolution a décrété la suppression, en fait, de tous les chapitres. Donc, les chanoines de Sainte-Radegonde ont été dispersés, et les biens du chapitre, donc ça comprend évidemment l'enclos canonial, les maisons des chanoines, mais aussi le presbytère, mais aussi la chantrerie, l'aumônerie, vont être vendus comme bien national à partir de 1790. Donc ça veut dire évidemment un quartier, si vous voulez, qui va être quand même remodelé par cette décision. De plus, toute la carte paroissiale de Poitiers va être réorganisée, et l'église Sainte-Radegonde, qui elle, en revanche, échappe à la vente comme bien national, ce qui n'a pas été le cas de toutes les églises de Poitiers, Sainte-Radegonde va demeurer l'une des 6 paroisses qui restent ouvertes, donc, après la Révolution. Alors après, faute d'un desservant constitutionnel, l'église n'a vraiment été réouverte au culte qu'à partir de 1804. Enfin, elle est réouverte au culte, elle est considérée l'une des paroisses restant dans la ville dès l'époque révolutionnaire. Bien évidemment, c'est une église qui a subi des déprédations pendant la Révolution. L'église a quand même été relativement peu occupée pendant quelques années, donc on imagine bien effectivement que cette église a été en partie abandonnée, au moins pendant la période de la Terreur. Donc on ne connaît pas toujours très bien en détail quel type de dommages elle a pu subir. C'est assez difficile de faire l'état des lieux juste après la Révolution française, mais enfin, l'église va être remise en service pour assurer en tout cas le culte de la paroisse. Le service, pardon, de la paroisse. Je vous passe quelques clichés qui sont des clichés anciens. Nous sommes au XIXe siècle, ça permet de se souvenir, entre autres, même si c'est anecdotique pour notre sujet, qu'il y avait autrefois sur le pont Joubert une petite chapelle qui était dédiée à la Vierge et qui a disparu au début du XIXe siècle. Je vous passe aussi quelques lithographies du XIXe siècle d'un esprit assez romantique. Donc, il est tout à fait exact et patent que la Révolution a donc laissé une empreinte matérielle à la fois dans les monuments et sur les monuments, les édifices religieux plus particulièrement, et elle a aussi désorganisé la vie du diocèse, qui n'a retrouvé en fait une direction stable qu'à partir de 1819. 30 ans plus tard, en 1849, est arrivé sur le siège épiscopal un jeune évêque à forte personnalité, Édouard Py, qui a le mérite certainement de comprendre d'emblée l'importance qu'aurait le bâtiment religieux dans l'importance qu'il y avait à démontrer la présence de l'Église dans la ville, de l'Église avec un E majuscule, hein, de l'Église institution, l'influence de l'Église sur la vie, la prééminence de l'Église dans la ville, allait passer à travers le bâtiment religieux. Raison pour laquelle ce bâtiment religieux devrait être entretenu, gardé en bon état, conservé. Et d'autre part, Mgr Py était aussi convaincu que garder les monuments en bon état, outre le fait qu'ils affirmeraient la puissance et l'importance de l'Église dans la ville, servirait aussi à toucher davantage les fidèles. Donc l'édifice religieux est consacré avec cette mission, en fait, de traduire à la fois l'importance de l'Église et de sensibiliser en fait les fidèles. Et Mgr Py a mis, pendant la trentaine d'années qui couvre la durée de son épiscopat, il a mis en place une religiosité qui était placée sous le signe de la célébration, des grandes processions, des fêtes populaires. et qui renouait avec probablement un besoin, d'un certain besoin de merveilleux, de surnaturel. Sous son influence, Poitiers est devenu un centre quasi permanent de pèlerinage. Et quand on évoque bien sûr le pèlerinage à Poitiers, le pèlerinage radegondien est de tout premier plan. Le pèlerinage sur le tombeau de Sainte Radegonde avait connu, un petit peu comme tous les sanctuaires en France en général, avait connu un déclin, surtout au XVIIIe siècle. Mais dès l'époque de la Restauration, donc à partir de 1815, il a connu une très vive reprise. Et cet essor, cette reprise, Mgr Pie y a tout à fait contribué, notamment en associant le culte de la Vierge, pour laquelle il nourrit une dévotion particulière, la Vierge Reine des Cieux, à celui de Radegonde, Reine de France. Donc l'association en fait, de ces deux cultes a permis que l'essor des pèlerinages reprenne sous son influence. Et en particulier, cette association entre le culte radegondien et le culte marial a fait, par exemple, que dans la seconde moitié du XIXe siècle, quand se déterminent de nouveaux sanctuaires dédiés à la Vierge, suite aux grandes apparitions mariales du XIXe siècle, songez par exemple qu'à partir de 1874, le pèlerinage national de Lourdes s'arrête à peu près 36 heures à Poitiers. Ce qui va permettre aux pèlerins de faire une halte dans la ville, de se recueillir sur le tombeau de Sainte Radegonde, de éventuellement visiter la moniale de Sainte-Croix, et pour certains d'entre eux, de faire un détour jusqu'à Saint-Martin-de-Ligugé. D'ailleurs, non par hasard, établissement là aussi racheté par Mgr Pie pour y rétablir une communauté bénédictine, toujours au XIXe siècle. Donc, en moyenne, on estime qu'il y a, dans cette seconde moitié de siècle, entre 100 000 et 300 000 pèlerins qui, annuellement, vont se recueillir sur le tombeau de la Sainte. Bien évidemment, ce contexte de dévotion et de renouveau de ferveur pour le culte de Sainte Radegonde va déterminer un certain nombre d'orientations, de choix pris dans les aménagements intérieurs de l'église, par exemple. On imagine bien que cette circulation des pèlerins va déterminer certaines priorités dans les accès, par exemple, à la crypte qui détient le tombeau de Sainte Radegonde. Cela dit, je vous avance un petit peu dans le romantisme des clichés, ça permet de changer de vue, ça ne vous lasserait pas. Cela dit, mais je voudrais vous montrer, c'est en sacrifiant à la modernité avec une vie contemporaine, et puis vous montrer aussi, puisqu'on parlait de renouveau, de ferveur radegondienne, vous montrer un cliché qui a été pris dans les années 50 et qui nous montre encore l'aménagement de la crypte tel que certains d'entre vous ont pu le connaître sans doute, avec la statue de Sainte Radegonde à l'avant du tombeau et puis les pics cierges surtout sur le couvercle du sarcophage. Donc cela dit, évidemment le diocèse n'est pas le seul à se soucier de Sainte Radegonde. Il va même devoir composer avec les institutions représentées par le service des monuments historiques et son plus illustre représentant, l'inspecteur général des monuments historiques, qui est celui qu'on a évidemment retenu pour ces années-là, et Prosper Mérimée, qui a pris cette charge d'inspecteur en 1834, le service des monuments historiques étant lui fondé en 1830. Mais il n'est pas le premier donc en charge, il avait été précédé par Ludovic Vité, alors, qui est beaucoup moins évidemment connu que son successeur. On va avoir un premier passage de Prosper Mérimée à Poitiers en 1835. Et il est entré en contact avec les fondateurs de la Société des antiquaires de l'Ouest, qui était elle-même une toute jeune société puisqu'elle avait été fondée l'année précédente. Et une société qui va souvent d'ailleurs se poser comme un relais en province, en campagne, des institutions et en particulier du service des monuments historiques. Prosper Mérimée, lors de ce premier passage à Poitiers, et il en fera un certain nombre d'autres, va étudier plusieurs monuments, donc entre autres, bien sûr, Notre-Dame-la-Grande, Saint-Jean-de-Montierre-Neuf, Saint-Hilaire, les arènes romaines, le baptistère et Sainte-Radegonde. Et il se réintéressera plus précisément à Sainte-Radegonde en 1849, lors de certains aménagements qui ont été faits à cette époque-là et dont je vais vous parler dans un moment. En 1837, Prosper Mérimée a rédigé ses notes de voyage. Ça s'appelle « Notes d'un voyage dans l'ouest de la France ». Et lorsqu'il aborde la ville de Poitiers, il va indiquer en préambule « Il y a peu de villes qui réunissent un aussi grand nombre de monuments intéressants que Poitiers. » Voilà, ça c'est pour le petit chatouillis d'orgueil légitime. Je précise d'ailleurs à cet égard que j'ai prévu de vous citer plusieurs extraits, de certaines fois de courriers ou comme ça de publications de cette époque-là, en essayant de ne pas abuser dans la citation, parce que quelquefois ça peut être un petit peu ennuyeux à entendre, mais je ne l'ai pas fait par souci de facilité pour m'épargner un petit peu de travail, mais parce qu'il me semblait que c'était important de faire entendre aussi la voix des protagonistes principaux de cette restauration, des réflexions qui s'élaborent sur le patrimoine au XIXe siècle. On a beaucoup tendance à analyser leurs actions, éventuellement à commenter leurs écrits, mais il me semblait quand même juste, à l'occasion de cette conférence, de leur redonner aussi la parole et de savoir un petit peu, de retourner à la source de leurs commentaires, ce qui n'empêche nullement d'en faire ensuite l'analyse critique, mais ça permet au moins de remonter le cours du temps. Donc, dans toujours ces notes de voyage, d'un voyage dans l'Ouest, Prosper Mérimée donc parle de Poitiers et donne en fait une petite description des monuments qui ont retenu son attention. Et lorsqu'il consacre son commentaire à Saint-Radegonde, il m'a semblé assez frappant et assez significatif que ce qui attire son attention dans l'église Saint-Radegonde, c'est la tour-porche. Par exemple, par égard avec tout ce que je viens de vous dire sur le renouveau du pèlerinage radegondien, ne va pas du tout aborder sa description de l'église sous le profil religieux d'une église de pèlerinage, d'une église qui fait l'objet d'une ferveur populaire assez notable. Il va aborder ce monument avec un esprit rationaliste, détaché justement de toute ferveur religieuse, et ce qui retient vraiment son attention, c'est la tour. Peut-être aussi parce que le roman va naturellement l'intéresser plus que le gothique, mais la tour-porche fait l'objet d'un descriptif assez long, une bonne dizaine de lignes, où il commente avec beaucoup de précision la forme des ouvertures, les colonnes, les chapiteaux, etc. Et il mentionne quand même le portail, restons en thème actuel. Je lui donne donc la parole, il dit qu'au 15e, on a appliqué sur la base de la tour un portail gothique qui, considéré isolément, ne manque pas d'élégance. Son seul défaut est de contraster fortement avec les constructions qui l'accompagnent. Bon, c'est un point de vue qui n'appartient qu'à lui, mais qui montre en tout cas que son intérêt pour cette église est, par exemple, purement architectural. Je crois avoir... Non, je ne l'ai pas ajouté. Donc, bien évidemment, le rôle de Prosper Mérimée, lorsqu'il organise comme ça ses tournées d'inspection dans les provinces, c'est de repérer les édifices d'intérêt, et c'est pour ça que je vous parlais aussi du rôle de la Société des Antiquaires de l'Ouest pour notre région. Ils font ce relais qui est important, c'est qu'ils vont pouvoir signaler d'avance à l'inspecteur général les monuments isolés qui devraient logiquement retenir son attention. Donc, il essaie de repérer les édifices majeurs et d'attribuer ensuite des subventions qui vont permettre leur conservation. Il ne faut pas se leurrer, c'est aussi vraiment un problème très matériel dès le XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on va inventorier, mais aussi vraiment pour dresser des listes prioritaires des établissements, des monuments qui doivent en priorité être restaurés et donc auxquels on va devoir allouer de certaines sommes. Et là non plus, il ne faut pas s'imaginer que la simple création du service des monuments historiques puis la création de ce poste d'inspecteur a suffi à classer une fois pour toutes une procédure qui serait entérinée dans toutes les différentes régions de France. C'est bien évidemment beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué à mettre en marche. Et même au regard des sommes allouées par l'État, ça a toujours été un petit peu le talon d'Achille. Et dès les années 1840, donc une dizaine d'années après que Prosper Mérimée ait pris sa charge d'inspecteur, eh bien, il notait avec un air un peu désabusé que finalement, il avait l'impression que sa tâche ne consistait plus qu'à constater des besoins et ne pas pouvoir les satisfaire, en fait. C'est-à-dire avoir effectivement une masse de travaux à devoir conduire que les finances de l'État ne pourront pas en fait prendre en charge. C'est assez important en fait cet aveu, ce semi-aveu d'impuissance élaboré dès les années 1840, parce que ça laisse évidemment comprendre qu'un certain nombre de travaux pourront être menés, conduits par les diocèses, pas forcément avec l'aval des monuments historiques et sans leur financement, tout simplement parce que l'État ne peut pas pourvoir à tout. Alors, bien évidemment, l'une des tâches aussi du service des monuments historiques, on l'a abordé, c'est de classer les monuments et de les signaler comme étant devenus des monuments historiques. Alors, au départ, ça se passe vraiment par des listes, hein, c'est ce que M. Janot expliquait hier soir pour ceux qui ont suivi sa conférence. La première liste de monuments classés a été élaborée en 1840. Et pour Poitiers, elle concerne 4 monuments, pas davantage, mais c'est déjà un assez bon score, je dirais. Et nous avons à Poitiers le classement simultané de l'église Notre-Dame-la-Grande, les arènes romaines, l'église Saint-Hilaire-le-Grand, pourtant amputée d'une grande partie de sa nef à cette époque-là, et l'ancienne abbatiale Saint-Jean de Montierneuf. Voilà. Ça ne concerne pas dans un premier temps l'église Sainte-Radegonde, qui n'a été classée qu'en 1862. Alors, j'aborderai maintenant les travaux qui ont été engagés donc dans l'Église au cours du XIXe siècle. En sachant que j'utilise à dessein le mot « travaux » parce que « restauration » ne serait pas assez dire pour la multiplicité des approches qui ont été menées sur cette Église. Il y a sans doute, oui, des restaurations, si on tient compte de ce qui a été fait pour consolider l'existant, pour le maintenir, le conserver. Mais vous avez aussi des travaux de dégagement, en particulier des abords immédiats de l'église. Vous avez des destructions, vous avez des innovations, vous avez des repeints sur les décors. Donc c'est vraiment une multiplicité d'approches dont je vous parlerai d'abord à travers ce qui a pu être mené autour du chœur et de la crypte. Alors, le chœur liturgique a été réaménagé à partir des années 1840 parce que sous l'Ancien Régime, donc juste avant la Révolution française, le chœur liturgique ne coïncide pas forcément avec ce qu'on appelle aujourd'hui le chœur dans l'Église. Le chœur est beaucoup plus bas, l'autel majeur est dans la nef. Et la portion de nef d'ailleurs qui est laissée à la disposition des paroissiens est toute petite, hein, ça correspond à peu près à une travée à partir du moment où on entre dans l'église par le porche. Et d'ailleurs la nef était clôturée par un grand jubé. Donc dans les années 1840, on va remonter un petit peu ce chœur liturgique et on va installer l'autel à peu près à l'endroit où il se trouve aujourd'hui. Et on fait à cette occasion aussi enlever des boiseries qui habillaient le sanctuaire, mais qui le masquaient aussi un petit peu, et qui étaient un don d'Anne d'Autriche, donc au XVIIe siècle. J'aurai l'occasion de vous en reparler parce que Anne d'Autriche a offert un certain nombre de choses également dans la crypte. Plus tard, ensuite, l'autel que vous voyez là, c'est un autel qui a été commandé et réalisé dans les années 1870, en style néo-roman. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il est un petit peu relégué au fond du sanctuaire, puisqu'un autel contemporain l'a substitué. Les travaux de la crypte vont être menés dans les années qui suivent, donc au début des années 1850. Ils vont être menés à l'initiative de Mgr Py, et ils seront placés sous la direction de l'architecte Joly Le Terme, alors qu'il n'est pas un inconnu pour nous à Poitiers, c'est effectivement un ami de Prosper Mérimée, en tout cas c'est une connaissance. Et Joly Le Terme est un architecte qui s'est illustré sur l'église de Saint-Savin par exemple, ou également au baptistère. Et c'est Joly Le Terme qui va procéder à cette restauration de la crypte, en tout cas les travaux dans la crypte, dont l'essentiel en fait consiste à simplifier les passages et les accès, et donc à éliminer une grande partie du décor qui provient en fait du XVIIe siècle, qui est un décor offert par Anne d'Autriche, toujours elle, qui avait offert par exemple devant le tombeau, elle avait offert un autel de marbre avec une balustrade. Elle avait également offert, surmontant en fait cet autel, un très grand retable prenant toute la largeur de la crypte et masquant le tombeau, si ce n'est qu'on pouvait néanmoins y accéder par deux petites portes porte latérale dans ce retable. Et dans le retable avait également pris place une très belle statue de marbre de Sainte Radegonde. Mais celle-ci, vous la connaissez parce que c'est le seul élément qui demeure de ces aménagements 17e. Voilà, je vous la remontre ici, mais c'est la statue qui est encore aujourd'hui dans la crypte. Donc, à part cette statue de marbre, offerte donc par Anne d'Autriche, tout le reste du décor va être illuminé, hein, va vraiment être détruit, parce que les contemporains le jugent disgracieux, ce qui n'est peut-être pas faux, c'est-à-dire de leur point de vue, parce que le 19e siècle ne nourrit pas d'amour immodéré pour le 17e, mais surtout, c'est parce que ces décors un petit peu encombrants gênent la circulation des pèlerins. Je crois que c'est vraiment le nœud vraiment de toute l'affaire. Donc, dans le même esprit, on va enlever les tombeaux de Sainte Agnès et de Sainte Dicieule, qui étaient également présentés au bas des marches d'accès à la crypte. Et on va réouvrir les petits passages latéraux qui donnent accès à cette sorte de déambulatoire souterrain, hein, les passages latéraux que vous pouvez voir ici, et qui font qu'on peut effectivement déambuler autour de la partie centrale de la crypte. Et on va enlever les tombeaux, certes, mais on placera dans les petites absidioles de ce déambulatoire souterrain des autels qui seront consacrés en 1854. Donc la circulation dans la crypte va être largement facilitée et on va essayer en fait de simplifier le fait d'approcher le tombeau, et surtout dans la mesure où on est susceptible désormais d'avoir un flux de pèlerins suffisamment important pour qu'on soit obligé de réfléchir à la manière dont ils vont circuler autour des reliques. Mais songez par exemple qu'en 1851, le train arrive à Poitiers. Donc quand je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais du pèlerinage national de Lourdes à partir de 1874, en fait c'est qu'on va avoir des trains de pèlerins qui vont s'arrêter quelques heures à Poitiers et qui vont souhaiter donc accéder aux reliques de la Sainte. Donc ça nécessite effectivement de repenser les accès dans la crypte. La dernière campagne de travaux qui a eu lieu sur la crypte au XIXe siècle intervient en 1870. Alors mon cliché est un petit peu n'est pas assez près en réalité, mais on a légèrement allongé la voûte de la crypte de manière à gagner un petit peu également de superficie pour le cœur au-dessus, et il a fallu évidemment repenser les escaliers latéraux. C'est-à-dire que toute cette partie-là a été inventée de toutes pièces au XIXe siècle. D'ailleurs, lorsque vous considérez les petits modillons sculptés, hein, qui se trouvent donc sous le bord ici, si vous les regardez de près, vous reconnaîtrez sans aucun doute des petits éléments sculptés récemment. Donc ça a été simplement prolonger en fait l'accès, la rampe de descente à la crypte. Autre campagne de travaux sur l'église, et je vous parlais tout à l'heure de destruction, et bien dans le dernier tiers, là je vous parle davantage des abords de l'église ou de travaux sur les maçonneries extérieures, dans le dernier tiers du 19e siècle, on a détruit à Sainte-Radegonde le cloître du 12e. Alors, je vous montre un cliché qui, en même temps, est un cliché historique désormais, parce que vous savez, le portail avant restauration, ce qui va nous permettre après de nous réjouir le regard par un cliché tout frais. Le cloître, était situé donc sur le côté sud de l'église. Il est détruit dans le dernier tiers du 19e siècle pour faire place aux ateliers, les ateliers de sculpture religieuse qu'on appelait les ateliers Saint-Hilaire. Donc là encore, c'est une modification d'importance du quartier. Certains chapiteaux ont été sauvegardés et ont été donnés à la Société des Antiquaires de l'Ouest, raison pour laquelle on peut aujourd'hui les voir exposés au musée Sainte-Croix. Alors voilà pour les abords. Alors, je vais plus loin pour ne pas y revenir ensuite, mais les abords de l'église ont été en effet progressivement dégagés. En ce qui concerne le chevet de l'église Sainte-Radegonde, il a fini d'être totalement dégagé juste avant la Première Guerre mondiale. Il a été dégagé vers 1913. D'autre part, nous avons des travaux de gros œuvres, des travaux de consolidation de maçonnerie. Alors là, je vous montre des clichés tout à fait anciens, qui doivent dater des années 1880, où vous voyez échafaudé le côté nord de l'église. Donc là, on doit se situer au début des années 1880, et ensuite, mais je n'avais pas les clichés qui y correspondaient, c'est la tour Porsche qui va être elle-même échafaudée dans les années 1890. C'est une campagne de consolidation, hein, pour l'essentiel. J'ai un second cliché, mais qui concerne toujours les échafaudages du côté nord, dont on entrevoit un petit angle. Et nous avons ici des travaux qui sont menés par un autre architecte. Ça n'est plus M. Jean-Guy Leterme, c'est Jules Formiger, qui lui aussi était intervenu à Saint-Savin, qui est également intervenu à Baptistère, et qui sera quelques années plus tard architecte en chef des monuments historiques. Et c'est aussi lui d'ailleurs qui a construit le petit édicule qui protège l'hypogée des dunes. Mais c'est un petit peu plus tardif. Donc on a une consolidation du clocher-porche. Et à cette occasion, si vous regardez bien là dans le portail, vous verrez que les niches sont encore vides. À l'occasion de la campagne de consolidation de la tour Porsche, on va donc restituer des statues dans le portail, qui sont celles que nous pouvons voir aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pour le plaisir des yeux, c'est un cliché qui a été pris la semaine dernière. Mais désormais, tout le monde sait ce qu'il est advenu de cette très belle restauration, dans laquelle on retrouve donc ces statues qui sont du XIXe siècle, hein, et dont M. Janot expliquait hier qu'il n'y a pas de preuve formelle que ces niches murales aient été en fait habitées de statues autrefois, mais en tout cas, la volonté a été au XIXe siècle de les restituer, d'en restituer en tout cas une représentation. Pour finir avec ces travaux d'embellissement, de conservation, d'aménagement de l'église Sainte-Radegonde, je finis par le décor ou par le mobilier que je traiterai ensemble. Donc il y a eu quelques embellissements. D'abord, on a commandé au XIXe siècle, alors je n'ai pas de cliché, mais peut-être en garderez-vous l'image en mémoire, la chaire qui est dans la nef de Sainte-Radegonde a été commandée dans les années 1815, donc c'est une commande de nouveau mobilier. Et puis, entre la fin des années 1850 et le début des années 1870, pendant une quinzaine d'années, il y a eu des commandes de vitraux. Alors, qui ne concerne pas la nef, qui a des vitraux anciens qui ont eux-mêmes été d'ailleurs un peu... on a retravaillé sur eux à cette époque-là. Mais les vitraux dont il est question, ce sont ceux du sanctuaire. Alors, à la fois la partie haute du chœur, comme vous voyez ici, mais aussi les absidioles, le déambulatoire, en trois campagnes distinctes étalées sur une quinzaine d'années. Toutes les fenêtres du sanctuaire, du chœur roman, vont recevoir de nouveaux vitraux. Alors des vitraux qui sont évidemment tous orientés sur le récit, les épisodes de la vie de Sainte-Radegonde. C'est important aussi, et on va en reparler dans un instant, parce que dans l'église Sainte-Radegonde, toutes les représentations peintes, sculptées, les vitraux sont évidemment très largement inspirés du culte de la sainte. C'est-à-dire qu'une très grande partie justement du décor met en valeur l'histoire de Sainte-Radegonde et favorise, est censée favoriser justement la ferveur des fidèles. Donc il y en a là en plus un programme très cohérent, un programme iconographique très cohérent, avec des verrières qui sont dédiées à la Vierge, au saint, mais dans lequel évidemment Sainte-Radegonde joue un rôle tout à fait important. Je songe, mais je n'avais malheureusement pas de cliché correspondant, dans le déambulatoire, vous avez dans les parties vraiment droites du déambulatoire, vous avez des verrières qui vous relatent dans de petits médaillons des épisodes marquants de la vie de Sainte-Radegonde. Et entre ces médaillons, vous avez des petites inscriptions, et puis vous avez aussi des figures de ses contemporains. Donc on a beaucoup en fait travaillé autour, au moment de la... commande de ces vitraux, sur tout ce qui pouvait en fait contribuer à nourrir l'histoire, le récit, le culte de Sainte-Radegonde. Enfin, partant toujours sur le mobilier, mais vous voyez la chaire, je n'avais pas songé qu'on la verrait sur ce cliché. En 1894, on a inauguré un nouvel orgue sur une tribune créée par le même architecte qui venait de consolider la tour, Jules Formiger, qui a pensé réaliser cette tribune partie métallique. Et cet orgue, eh bien, inauguré en 1894, a dû ensuite être rénové dans les années 1940, et il a été refait à neuf concernant en tout cas sa partie instrumentale, il y a 10 ans. Hein, mais on a conservé et la tribune et le buffet d'orgue de cette époque-là. Mais, me direz-vous, nous avons parlé de décor et je ne vous ai pas parlé de peinture. C'est parce que j'ai le réservé pour la bonne bouche, en sachant que ça avait quand même été l'ingénieur le plus polémique de l'histoire. C'est justement les travaux qui tournent autour de la restitution des polychromies intérieures. Et là, les travaux qui ont été, les aménagements, les embellissements qui ont été faits en ce sens, ont été le support d'une vraie réflexion sur ce qu'étaient les enjeux de la restauration, sur ce qu'étaient ses limites, voire ce qu'était son éthique. Et on a là un débat d'idées qui est tout à fait intéressant pour l'époque. D'une manière générale, il faut peut-être rappeler que les rapports de l'inspecteur des monuments historiques avec le clergé, avec les conseils municipaux, en moindre part avec les sociétés savantes quelquefois, ne sont absolument pas exempts d'incompréhension, de tension, voire quelquefois de menus conflits. Et que le premier dans la charge donc, d'inspecteur général, Ludovic Vité, avait identifié les enjeux un petit peu de cette bataille dès 1833. Et il s'en était ouvert dans un courrier à son ministre, le ministre de l'Intérieur, puisque à l'origine le service des monuments historiques était un simple bureau administratif rattaché au ministère de l'Intérieur. Et Ludovic Vité, donc en 1833, avec cette doléance que je vous livre telle qu'elle a été écrite, les maires, les curés, les fabriciens et surtout les conseils municipaux me donnent bien du mal. Impossible de leur faire entendre raison. Et si vous me marmez d'un bout d'article de loi, d'ici à 10 ans, il n'y aura plus un monument en France. Ils seront tous ou détruits ou badigeonnés. Alors, il est peut-être un tout petit peu alarmiste, et d'autant qu'il n'a pas eu son bout d'article de loi dans les 10 ans qui ont suivi, mais s'en est fallu de quelques autres décennies. Mais en même temps, c'était intéressant justement de rappeler que, précisément, la mission n'est pas impossible, mais les inspecteurs des monuments historiques, qui sillonnent le territoire, qui inventorient, qui classent, n'ont effectivement aucune législation sur laquelle s'appuyer pour faire respecter une éthique, mais aussi de simples règles. Donc il y a une vacance assez terrible entre le moment où l'on commence à classer et celui, le moment où on légifère sur ce classement. Il s'est écoulé presque un demi-siècle, ce qui explique d'ailleurs beaucoup de choses, bien évidemment. Et ce qui explique aussi que quelquefois, ces inspecteurs se sentent un peu démunis, voire négligés, et qu'ils en arrivent effectivement à quelques conflits avec les personnes qui sont concernées. En ce qui concerne Saint-Radegonde, on avait découvert dans le cœur de l'église, dans les années 1830, quelques vestiges de peinture. Il faut imaginer que l'église était badigeonnée. C'est pour ça d'ailleurs que Ludovic Vité parlait de badigeon. Le mot badigeon a souvent été une sorte de chiffon rouge qu'on agite au XIXe siècle. Beaucoup se plaignent que les églises soient badigeonnées, c'est-à-dire qu'on les ait repeintes de couleurs uniformes dans le meilleur des cas. Et Saint-Radegonde, on le sait, avait été entièrement badigeonné à la fin du XVIIIe siècle. Donc dans le cœur, dans les années 30, je vais voir si j'ai... Non, je reste dessus, mais ça n'est pas le cliché auquel je songeais. Dans les années 1830, on découvre quelques vestiges de peinture dans le cœur, au moment où on est en train de reblanchir, précisément. Et ça, en fait, les badigeons sont toujours à l'œuvre à cette époque-là. Et les ouvriers qui sont en train de blanchir le cœur s'aperçoivent qu'il y a quelques vestiges qui sont peut-être intéressants. Ils appellent à la rescousse le chanoine Aubert, qui est membre éminent de la Société des antiquaires de l'Ouest, qui est également l'historiographe du diocèse, qui accourt sur les échafaudages. On lui dit qu'il a une heure pour tout regarder et qu'après, ça va être recouvert. Donc il monte sur les échafaudages. Et il lui semble bien, effectivement, qu'on a des décors qui raconteraient des épisodes de la vie de Saint-Radegonde. Il en fait une description, un peu sommaire, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de temps devant lui. Et puis, immédiatement derrière, on reblanchit et ça disparaît. Fin du premier épisode. En 1846, en revanche, la question va être celle des polychromies qui vont être restituées, comme vous le voyez sur la diapositive, sur le cliché, dans ce qu'on appelle à cette époque-là la sacristie, C'est une petite pièce qui a dû servir de sacristie pendant une période au XIXe siècle, qu'on connaît plutôt en fait historiquement sous le nom de chapelle Sainte-Madeleine. C'est cette petite pièce de forme carrée que vous trouvez à droite, près du chœur, hein, dans laquelle vous avez depuis un certain nombre d'années une exposition permanente sur Sainte-Radegonde. En fait, cette petite chapelle a été repeinte dans les années 1840, certainement à l'initiative du curé, dans une couleur qui n'est pas du tout au goût des antiquaires de l'Ouest. Cette fois, c'est eux qui vont un petit peu sonner l'alarme. Une teinte qu'ils jugent plate et qui a été rehaussée, disent-ils, avec des lignes couleur chocolat qui dessinent des sortes de faux joints. Donc, la Société des antiquaires de l'Ouest s'en émeut. Le curé, sentant un petit peu une levée de bouclier contre ces beaux badigeons, arrête tout de suite ses travaux et finalement conseille à la Société des antiquaires de l'Ouest d'assumer la responsabilité future des travaux dans cette chapelle. Et en effet, durant l'année 1847, la Société des antiquaires de l'Ouest fait laver, gratter ses anciens badigeons, et elle va faire reproduire un décor du XIIe siècle. Alors, parce qu'ils pensent aussi que cette chapelle date du XIIe siècle, aujourd'hui on l'estime plutôt du XIIIe, mais peu importe. Donc il faut reproduire un décor XIIe par un peintre poitevin qui s'appelle Yvonnet, et qui s'était acquis une certaine réputation dans le domaine de l'art religieux. Il venait justement d'intervenir à la chapelle Saint-Louis, du collège Henri IV. Donc il est précédé d'une certaine réputation. Ce qui est quand même intéressant à noter, même si c'est une simple parenthèse, c'est que les contemporains du XIXe siècle ont une conscience très vive de ce que les bâtiments étaient polychromes. La question ne se pose pas pour eux de savoir si les bâtiments étaient en pierre nue ou s'ils étaient peints. Il leur paraît tout à fait évident qu'ils étaient peints. C'est intéressant parce que ce n'est pas une découverte que nous avons faite, nous, à notre époque. C'est parfaitement ancré dans les consciences à cette époque-là. Ce que vous voyez là, c'est donc le décor qui est inspiré par la Société des antiquaires de l'Ouest et qui va être très satisfaite du résultat. Je pense avoir un autre cliché aussi. Là, vous voyez d'un petit peu plus près les motifs. Et là, la Société va publier dans un de ses célèbres bulletins un rapport sur ces peintures qui ont été refaites avec des thèmes qui me paraissaient très intéressants. Parce qu'il glorifie l'artiste d'avoir compris qu'il devait exécuter cette restauration, je vous cite, de telle sorte qu'on puisse croire qu'elle n'a pas eu lieu, et que c'est l'ouvrage primitif qu'on a sous les yeux. Alors pour ceux qui assistaient hier soir à la conférence de M. Janot, qui nous a si bien expliqué à quel point la scrupulosité, et puis c'est de toute façon désormais inscrit effectivement dans la règle de la restauration, à quel point on se devait précisément de rendre visible une restauration, il est évident qu'on mesure mieux avec ce type de citation et d'exemple à quel point l'évolution a apporté justement à distinguer l'éthique du restaurateur. Donc ce qui compte à cette époque-là, c'est vraiment de se substituer au décor primitif et de faire en sorte vraiment que tout soit invisible. Et ce qui est frappant aussi, toujours dans ce même rapport de la Société, c'est qu'on ressent toujours le besoin de légitimer en fait la démarche et de se prémunir en fait contre des attaques éventuelles. Et ce sont des indications tout à fait précieuses qu'il existe un débat d'idées, parce que s'il n'y avait pas de débat d'opinion, on n'aurait pas autant besoin d'assurer un petit peu partout ses arrières en essayant de prévoir la critique et tout de suite engager un argument, un contre-argument. Par exemple, on précise que le peintre Yvonnet, pour cette voûte de chapelle, a été guidé, entre autres, par l'étude d'un manuscrit de la même époque. Donc inattaquable, il a des sources historiques, et qu'il s'est attaché à ne reproduire que des couleurs qui étaient déjà existantes dans cette chapelle ou dans l'église à côté. Donc sur le plan historique, on ne pourrait rien dire. Donc il est vraiment martelé dans ce rapport qu'il n'a rien inventé. Mais pour qu'on le dise aussi fort, il va sans dire qu'il existe sans aucun doute une opinion inverse. En fait, le cœur de la question, et c'est intéressant justement de faire le lien avec la manière dont nous abordons nous aujourd'hui la restauration, le cœur de la question n'est pas est-ce qu'il faut intervenir ou pas, c'est comment être fidèle. Mais jamais, enfin, en tout cas pas dans, les, dans ce genre d'écrit-là, jamais on se pose la question, est-ce qu'il était bien nécessaire d'intervenir? Est-ce qu'il fallait restaurer? La question, c'est vraiment, comment va-t-on pouvoir prouver qu'on a remis en état et qu'on est vraiment revenu à l'état primitif? Et je trouvais très amusant que dans ce rapport de la société, la conclusion soit, et là encore ça s'adresse indirectement aux détracteurs, sans doute ces ornements, ces couleurs ne sont pas d'accord avec notre goût actuel, mais que ceux qui en seraient choqués veulent bien remarquer que sur de l'architecture du XIIe, ce qu'il fallait appliquer, c'était de la peinture de cette époque et non de la nôtre. Alors, qui est une relative mauvaise foi, parce qu'ils ont précisé quelques lignes plus haut que tout avait été fait à l'identique, et là tout d'un coup on part déjà la critique en disant d'accord, mais de toute façon on ne peut pas arriver à la perfection puisqu'on n'a pas de peinture de cette époque-là. Un argument d'ailleurs sur lequel Prosper Mérimée a une contre-réplique très intéressante que je vous livrerai tout à l'heure. Donc, en réalité, on a là un décor qui est cautionné par la Société des antiquaires de l'Ouest et qui prétend en fait proposer une sorte de restitution de l'époque. Sur le même principe, quelques années plus tard, on va avoir un chantier encore plus polémique. C'est celui des peintures de la voûte du chœur. Parce que dans le temps où on est en train de dégager les boiseries qui masquaient le sanctuaire, eh bien on remet à jour des peintures. Quelques années après les années 1830, je vous disais que vers 1836, on avait eu la préscience qu'il y avait des décors, mais ils avaient été immédiatement recouverts. Et 10 ans plus tard, on y revient, c'est l'épisode numéro 2. Et cette fois-ci, le diocèse, en fait, l'évêque, va charger le chanoine Aubert, ce même chanoine qui s'était risqué sur les échafaudages 10 ans plus tôt pour essayer de distinguer quelques amorces de décors. L'évêque va charger le chanoine Aubert de superviser la restauration de cette voûte peinte sans l'aval du service des monuments historiques. Et lorsque Mérimée découvrira les travaux, en septembre 1849, il va commenter « On a tout repeint et de la façon la plus dégoûtante. Cela serait risible si ce n'était désolant. » Je vous rassure, ce n'est pas le seul moment de fureur qu'il a eu, ni même le seul en Poitou d'ailleurs. Sur son injonction d'ailleurs, les travaux vont être suspendus, et puis ils reprennent quelques mois plus tard, parce que le ministère des cultes estime que ce sont de toute façon des travaux provisoires, puisque la voûte menace. Bon, menace n'est pas si fort, puisqu'elle est toujours là aujourd'hui, mais c'est une autre affaire. Ce qui est très intéressant là sur le débat de la voûte, c'est que on a cette fois-ci les écrits du chanoine Aubert, qui lui aussi a rédigé dans le bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest sa propre légitimation d'intervention, et qu'à nouveau, ces écrits nous laissent entrevoir toute la polémique sur l'authenticité des restaurations. Le chanoine Aubert va invoquer dans un préliminaire à son article la nécessité d'une fidélité scrupuleuse, d'une respectueuse circonspection. C'est dire à quel point il est prudent et à quel point il pare déjà l'attaque qui pourrait lui venir en disant que tout ça a été peut-être fait un peu trop vite, sans vraiment prendre le temps de réflexion. Non, il nous assure qu'il a fait preuve de circonspection et de fidélité. Et en gage de bonne foi, il donne même l'impression d'avoir dû se faire violence pour ne pas améliorer des dessins qui lui semblaient très imparfaits. Alors ça, il faut vraiment lire les écrits de chanoine Aubert, c'est assez amusant. Il dit qu'il en a même été effrayé quand on commence à dégager cette voûte et qu'il voit ce qu'il y a dessous. Il est effrayé par la mauvaise qualité du dessin, parce que déjà il pense avec horreur que s'il le restitue à l'identique, on va l'accuser d'avoir mal fait. Donc c'est une sorte de spirale dans laquelle de toute façon on ne peut pas échapper à la critique. Et il se défend d'avoir apporté la moindre contribution personnelle justement à cette restauration. Alors là vous n'en voyez en fait qu'un petit angle, je vais vous montrer le cliché de la voûte en entier. Il se défend d'avoir apporté la moindre contribution personnelle et il dit qu'il a fait restituer scrupuleusement toujours ces scrupules. Je vous cite, les poses roides et saccadées, les traits timides et tâtonnés des personnages et des ornements. Et donc il s'est fait violence, à la rigueur il les aurait bien améliorés, dit-il, mais au nom du non-interventionnisme, il ne l'a pas fait et il a laissé des dessins qui effectivement étaient assez imparfaits. Et il avoue qu'il prend ce parti pour se préserver contre la critique qui viendrait un jour l'accuser en fait d'avoir mis ses rêveries à la place de la réalité historique et d'avoir substitué son style propre au style d'un artiste qui serait perdu en fait à jamais. Le problème, c'est que de toute façon, cette démarche, aussi scrupuleuse soit-elle, se heurte complètement à l'opinion de Prosper Mérimée, qui s'en est ouvert, donc dans une lettre pleine d'amertume, que Prosper Mérimée rédige en 1849 et qu'il adresse à un des membres éminents de la Société des antiquaires de l'Ouest, qui était doyen de l'école de droit, et il lui fait une très longue épître dans laquelle il va vraiment livrer toute son amertume que les peintures de cette église aient été, selon ses dires, en fait, tout simplement massacrées. Je voudrais vous citer juste un passage au début de sa lettre qui me semblait important parce qu'il pose vraiment les enjeux et il montre devant quelles difficultés en fait il se trouve et de quelle manière, et ça me permet de faire le lien avec ce que disait M. Janot hier soir, de quelle manière il se défend lui-même d'avoir un quelconque parti pris en la matière et à quel point il entend faire plutôt triompher une méthodologie, une rigueur scientifique. Il adresse donc cette lettre à M. Foucard, en lui disant « Vous avez bien voulu me demander ce que je pense des peintures nouvellement exécutées à Sainte-Radegonde. J'hésiterais peut-être à vous répondre s'il s'agissait d'exprimer mon opinion personnelle. Mais il s'agit ici d'une question beaucoup plus grave, celle du système qu'il convient de suivre dans la restauration des monuments. Et sur ce point, aucune considération ne peut m'empêcher de soutenir le seul avis qui me semble raisonnable. » C'est vraiment le poids de la science dont il veut en fait se faire un bouclier et éviter qu'à son tour on lui dise que finalement il a des opinions qui sont de pur parti pris. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de cette lettre, qui est donc très longue, il remet en cause à la fois l'authenticité des repas et ce que dit le chanoine Aubert en disant que c'était mal peint au départ. En gros, c'est ce que dit le chanoine Aubert. Il dit que les traits étaient imparfaits, les poses n'étaient pas souples, mais comme on a voulu respecter ce qui était, nous avons à nouveau un dessin imparfait. Prosper Mérimée, lui, remet fortement en doute cette réalité et dit que ce n'est pas possible que personne au Moyen-Âge n'a jamais fait un dessin aussi plat et aussi peu intéressant. Mais plus intéressant encore à mes yeux, il remet en cause non seulement l'authenticité des repas, mais l'opportunité d'avoir restauré. Alors ça nous touche de plus près, parce qu'autrement ce sont des querelles, je dirais, d'école, à qui soutiendrait que non, au XIIIe siècle, on ne peignait pas aussi mal, et qui dirait que si, c'était du dessin assez grossier. Mais le second volet de son indignation me paraissait d'autant plus important qu'il met en avant l'impossibilité technique des restaurateurs du XIXe siècle de comprendre, d'appréhender et donc de restituer la nature même des pigments colorés, la nature des supports, des liens. Donc il met en avant la profonde incapacité qui est la leur de restituer à l'identique. Et il pointe du doigt justement cette sorte d'illusion de refaire un décor comme autrefois. Et ça me paraissait d'ailleurs assez intéressant à cet égard-là. Il précise qu'on n'a pas encore compris que donc il est tout à fait hasardeux de restituer des décors. Et d'autre part, il indiquait également, il doutait également que ce soit intéressant de restituer un décor qui a quasiment disparu. Et il n'est pas douteux que l'état de la voûte ait été particulièrement en très très mauvaise conservation. Je vous cite un passage de la fin de sa lettre. « Si, comme je le suppose, les peintures anciennes de Sainte-Radegonde n'étaient que des vestiges informes, qu'on ne put conserver, fallait-il les remplacer par une composition moderne ? Je ne le pense pas. Le style de l'Église ne le permet guère. » Alors, il a une proposition qui, aujourd'hui, hérisserait certainement la conscience de plus d'un restaurateur. Son parti à lui, c'est le parti le plus sage, à mon avis, eût été de substituer une ornementation fort simple et fidèlement copiée d'après des modèles authentiques. C'est ce que M. Joly Le Terme, a fait à Saint-Savin pour la voûte du cœur qu'il a fallu refaire entièrement. Il y a fait peindre des croix et des rosaces, copiées sur celles de la crypte de Chartres. Alors ça peut paraître curieux parce qu'il vient de s'indigner vertueusement du fait qu'on ait restitué un décor alors qu'on ne connaît pas la nature des pigments, et il propose tout simplement de faire autre chose. C'est vrai que c'est ce qui est arrivé à Saint-Savin, le cœur de la voûte du cœur de Saint-Savin est effectivement peinte de petits motifs de rosaces, de croix, qui sont inspirés effectivement de Chartres. Mais c'est tout le débat en fait qui tourne autour de ces restaurations, c'est-à-dire est-ce qu'on doit vraiment restituer ? C'est intéressant de sa part à lui, ce qui est un raisonnement positiviste et scientifique, de dire mais si ce décor était sur le point de disparaître, laissons-le disparaître. À la rigueur, proposons autre chose. Pourquoi est-ce que là, son avis, l'avis de Prosper Mérimée et celui de Chanoine Aubert divergent autant ? Parce que pour le Chanoine Aubert, pour le clergé en général, la restitution de ce décor, elle s'imposait tout simplement au nom des exigences religieuses. Parce que le décor peint, comme les vitraux, comme la sculpture, est là pour l'édification des fidèles, qui ne peuvent absolument pas se contenter d'un décor en partie effacé, mal compréhensible. Et le chanoine Aubert s'en est expliqué très clairement en disant « Le catholicisme a des exigences et on ne peut pas se contenter d'une approche muséale. » Et il disait « Sinon le visiteur viendra s'extasier sur des figures incomplètes, sur des débris de scènes incohérents qui seront destinés aux savants et aux touristes de bon ton. » C'est-à-dire le populaire, lui, ne pourra pas se contenter d'un décor qui n'est plus compréhensible. Donc la restitution de ces peintures, elle se fait dans cette optique-là. Et forcément, ne peut pas rencontrer l'assentiment de Prosper Mérimée qui travaille sur de tout autre critère et priorité. Alors, ces divergences de vue, évidemment, ne résument même pas à elles toutes seules la totalité des débats ou des positionnements de l'époque. On pourrait encore citer l'opinion de Viollet-le-Duc, alors qui est encore différente, qui n'est pas isolée dans ses convictions, loin de là, qui estimait quant à lui, c'est presque une troisième voie encore, que restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet, qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Une citation qu'il faut vraiment avoir en entier, parce que c'est le fait de rétablir dans un état complet. C'est le principe de dire si une tour n'est plus là, si une tour a été démolie, voire si elle n'a jamais été construite, mais si elle avait été vaguement projetée, alors il est tout à fait légitime de la refaire, puisqu'on va remettre l'édifice dans un état complet, total. À cet égard, peut-être que Viollet-le-Duc aurait tout à fait validé et cautionné justement la restitution du décor peint, puisque on remet la voûte dans un état complet. Mais ça, c'est une autre histoire, puisqu'on ne lui a pas soumis forcément cette problématique-là. Donc, bien évidemment, ensuite, notre époque a prolongé la réflexion. C'est tout l'intérêt de revenir comme ça aux sources du questionnement sur la notion de restauration, puisque nous sommes évidemment aujourd'hui très largement héritiers de ces réflexions qui se sont amorcées au XIXe siècle. Alors je conclurai en rappelant tout de même que tout ce que nous venons de questionner à travers l'exemple de Saint-Radegonde s'est posé, dans des termes parfois semblables, parfois légèrement différents, sur les autres édifices monumentaux de la ville de Poitiers, qui a hérité au XIXe siècle quand même d'un capital monumental médiéval très important. Donc ces questionnements se sont aussi proposés pour la restauration de Notre-Dame-la-Grande, de la cathédrale ou de Saint-Hilaire-le-Grand. C'est vraiment un état d'esprit qui reflète tout à fait les questionnements d'une époque qui a eu au moins le mérite de poser justement les jalons des réflexions dont nous sommes héritiers aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici et bien évidemment, si vous avez des questions, je vais rester à votre disposition. Merci. Oui. Alors, je crois que c'est Honoré, pour une question de datation. On est là à la moitié du 19e. Le fils est intervenu aussi plus tard, hein, donc je n'ai pas la mention dans les... C'est vrai que dans les écrits, par exemple, des sociétaires, ils mentionnent toujours le nom de famille, ne précisent pas le prénom, enfin dans ceux en tout cas auxquels je faisais référence, mais je pense que c'est Yvonnet père.
Il se trouve au cimetière de la Pierre Levée.
Tout à fait, c'est une famille poitevine, en effet. Hein. On faisait référence ici à un artiste local. Poitevin, tout à fait. Vous avez été assommé par l'exposé. Plus un souffle dans la salle. J'ose espérer que je n'ai pas été suffisamment péremptoire pour que vous n'osiez plus apporter de contradiction. Ça n'aurait pas été le but, bien évidemment, de l'exposer. Dans ce cas-là, nous allons rentrer dans nos foyers beaucoup plus tôt que prévu.
Je pense que demain, samedi après-midi, une partie de ces aspects-là vont être repris dans la visite
ou... Oui, alors c'est vrai que là, je ne sais pas si vous aviez lu dans le programme, samedi après-midi, nous organisons une visite donc autour de Sainte-Radegonde et de la cathédrale. Mais c'est effectivement une visite guidée qui est un peu orientée sur les aspects du 19e siècle. Alors, pas uniquement cela, j'essaierai d'en trouver d'autres aussi pour que... Si certains d'entre vous suivent un peu l'ensemble du programme, qu'il n'ait pas trop de redites. Mais oui, bien sûr, il s'agit aussi d'orienter le parcours guidé sur les modifications apportées au XIXe siècle. En ce qui concerne la cathédrale, comme nous ne les aurons pas abordées ce soir, ils pourront être proposés en visite. Pour Sainte-Radegonde, je vais essayer de trouver quand même autre chose. D'innover un petit peu. Je signale d'ailleurs à cette attention que si certains d'entre vous étaient intéressés ou à la visite en elle-même ou à ce que l'on propose au terme de la visite et qui est l'accès exceptionnel aux tribunes des orgues, l'orgue Cliquot ou l'orgue de Sainte-Radegonde, c'est sur inscription et demain nous clôturons les inscriptions. Donc si ça intéresse certains d'entre vous, il ne faut pas oublier de s'inscrire.
À propos des restaurations, on peut toujours se poser la question de conserver ou ne pas conserver. À côté de la chaire du 19e, il y a des peintures gothiques qui apparaissent sous le badigeon. Hein, donc, de très belles inscriptions.
Et d'ailleurs,
je pense que c'est un ange de l'Annonciation, quelque chose comme ça. Enfin, hypothèse.
Peut-être. Voilà. Je ne te contesterai pas l'hypothèse. Également, au revers du portail, c'est vrai que depuis la restauration, on peut maintenant distinguer une petite partie de décor peint qui est très, très intéressante. Qu'il suffit là d'aller voir, vraiment, c'est désormais très, très clair à l'œil nu. Donc oui, on est susceptible de trouver encore autre chose, pourquoi pas.
Le faux appareillage du clocher-porche est d'époque romane.
Écoute, je ne sais pas, parce que M. Jalou évoquait hier soir la possibilité que ces peintures-là soient au 15e, donc je ne sais pas si elles ont été authentifiées.
Parce qu'à Brioude, il y avait un spécialiste de la fresque, il y a quelques années, qui avait dit que ces fresques sont cet appareillage est du 11e.
C'est possible, c'est vrai qu'au revers, quand on est sous le clocher-porche, au revers du portail, il y a à la fois cet arc peint, vraiment juste en dessous de la voûte, et puis il y a un faux appareil, ce qu'on appelle le faux appareil, c'est cet enduit couleur assez uniforme sur lequel on redessine en fait les faux joints de la pierre.
Bon, maintenant... c'est une histoire de spécialiste.
Sur laquelle donc, on s'en fait obligé de trancher.
Il y a eu aussi d'autres découvertes toutes récentes de peintures, mais l'accès en est fermé. C'est dans la chapelle des apôtres, sur la gauche du chœur. Donc si à l'occasion vous êtes dans l'église et que vous trouvez quelqu'un qui possède la clé, n'hésitez pas.
Parce que ça n'est pas un accès.
Elles sont des peintures de la fin du Moyen-Âge, où on entrevoit un ensemble de personnages, mais c'est tout à fait intéressant. Y a-t-il d'autres questions ?
Est-ce qu'aujourd'hui, sur un plan artistique, on peut vraiment regretter ces restaurations du 19e ? Qu'est-ce qu'on peut en penser?
C'est une question assez délicate. Je me bornerai à constater qu'il y a quelques années a été édité un ouvrage, par ailleurs tout à fait passionnant, sur les peintures murales en Poitou-Charentes, et qu'elles n'ont pas été intégrées dans cet ouvrage-là. Donc, de l'avis des spécialistes, elles sentent un peu le soufre encore. Je ne risquerai pas à porter un jugement esthétique sur ces peintures. Je pense qu'il faut que le débat en demeure celui de l'opportunité ou pas de la restauration. Sur le plan esthétique, il est très difficile. De toute façon, comme ces peintures ont effacé les peintures précédentes, on ne saura jamais si l'abbé Aubert avait raison ou non, et si les traits étaient effectivement aussi peu subtils que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc ça reste une question en suspens. La question de l'opportunité de la restauration, elle est beaucoup plus délicate puisqu'elle fait jouer des fonctions qui peuvent être différentes, c'est-à-dire la fonction religieuse contre le rationalisme de la restauration purement historique. Donc c'est un débat d'idées, vous le sentez certainement, qui n'est pas éteint, qui n'est absolument pas archivé, sur lequel on a pu évoluer, mais sur lequel on ne tranche pas forcément jusqu'à nos jours. C'est toute la question de savoir à quoi sert aussi un décor ou un monument, et est-ce que sa fonction légitime justifie tout ce qu'on peut faire sur lui. C'est une question qui n'est finalement pas si tranchée que ça. Quand je vous disais qu'on était héritier des problématiques du XIXe siècle, c'est aussi qu'elles n'ont pas toutes trouvé leur point final, peut-être une bonne chose d'ailleurs. Ça laisse encore le champ pour les débats, c'est tout l'intérêt.
Une problématique du 19e. Mm-hmm. Puisqu'en fait, c'était la volonté du Père de la Croix de dire qu'il y avait eu des martyrs, soit des Romains, et cette chose-là a été largement contestée après par le Vilain, mm-hmm. puis ensuite par eux.
Oui, mais c'est tout l'intérêt d'ailleurs de ne pas avoir un débat qui soit complètement lisse. Il y a toujours eu effectivement des contrastes d'opinions sur le sujet, puis ça touche des sujets relativement sensibles pour lesquels il y a effectivement des appréciations tout à fait différentes, hein, d'une époque à l'autre et d'une personne à l'autre. Donc c'est tout à fait souhaitable que le débat reste vivant d'ailleurs, et qu'on en demeure sur cette idée de questionner le bâtiment et de questionner le patrimoine.
Bon, bien, je crois qu'il nous reste à remercier conférencière. Je reprendrai bien l'occasion quelques citations sur ces débats.
Je vous invite, si ce sujet vous intéresse, à aller à la source de ces documents. Ça n'est pas du tout, comme on pourrait le craindre, une lecture austère. C'est une véritable passion, en fait, de découvrir les débats de cette époque-là. Et ça se lit à la fois très agréablement et c'est très instructif. Donc, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter ces sources que vous pouvez trouver à la médiathèque de Poitiers, hein, dans la salle de patrimoine et recherche. Ce sont les bulletins et les mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest. C'est une véritable mine. Je vous remercie.